France Musique. France Musique, les grands entretiens, François-Xavier Chemchak.
Je m'appelle Cyril Huvet, je suis né le 9 février 1954 à Paris, je suis pianiste.
Cyril Huvet, nous avons parlé dans la première partie de ces entretiens de votre enfance à Paris, de votre fréquentation de la Maison Ronde dans laquelle nous sommes, et ce dès les années 60, vos premiers professeurs de piano, vos premiers souvenirs musicaux. J'aimerais que nous abordions maintenant plus en détail la notion de transmission, en commençant par évoquer vos études supérieures en musique. Je vais vous montrer une photo, vous connaissez bien. Est-ce que vous pouvez décrire aux auditeurs de France Musique cette photo ?
Alors cette photo, c'est la classe de Dominique Merlet, faisait partie de cette classe. Dominique Merlet, entouré de ses élèves, donc on reconnaît Jean-Marc Luisada, Philippe Cassard, tout jeune, à qui était arrivé de Franche-Comté, Frédéric Agessi, Cécile Huguenard-Roche, Michel Bourdoncle, et l'assistante de la classe, Jeannine Vieuxtemps, récemment décédée, qui était une descendante du violoniste Henri Vieuxtemps et du compositeur, enfin des deux Vieuxtemps.
Et il y a Cyril Huvet.
Et moi aussi, voilà, et Nadia Imou et quelques autres.
Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette photo ?
Elle nous rappelle des moments où on a vraiment beaucoup échangé les uns les autres, aussi sur la pédagogie, nous-mêmes en tant qu'élèves, mais un peu plus que élèves, quoi. On était rue de Madrid. Donc le conservatoire supérieur était encore rue de Madrid. Et Dominique Merlet venait tout juste d'être nommé. Dominique Merlet avait pris la suite de Pierre Marviset, qui avait fait quelques années de professeur et qui avait réintégré le conservatoire de Marseille. Donc c'est Dominique Merlet qui lui a succédé.
Combien de temps vous êtes resté dans sa classe, Cyril Huvet ?
3 ans. Dominique Merlet, un grand musicien, bien sûr, d'abord, mais un grand professeur qui a une pédagogie très organisée, très construite, très forte. Il a voulu marquer un certain style avec ses élèves et qu'ensuite il a un peu évolué à ce niveau-là. Il nous a vraiment obligés à nous confronter au texte musical avec la plus grande rigueur. Et ça, c'est formidable parce qu'il nous a vraiment appris à lire un texte, appris à lire une partition. Parce qu'on dit, on travaille sur des urtextes, d'accord, mais encore faut-il savoir les lire. Donc, comment est-ce qu'on lit un urtexte ? Est-ce qu'on réalise vraiment ce qui est dans la partition ?
Urtexte, c'est la version primaire, originale.
La version originale, par exemple. Ça, c'est une chose très intéressante de voir comment la lecture de la même partition a pu évoluer au cours de l'histoire à travers l'édition musicale. Voilà, enfin, en tout cas, Dominique Merlet nous a rendu conscients de tous ces paramètres qui n'étaient pas souvent dans un conservatoire comme le Conservatoire de Paris. Il fallait jouer comme on jouait dans la tradition de la classe. Dominique Merlet, c'est beaucoup plus le legato, une technique de son, de vélocité, mais aussi de son.
Extrait des Jeux d'eau de Maurice Ravel par Dominique Merlet. Cyril Huvet, il est temps maintenant de parler d'un homme qui a été central dans votre vie, c'est le pianiste chilien Claudio Arrau.
Claudio Arrau. J'ai d'abord connu comme auditeur, parce que c'est en fait un des premiers pianistes que j'ai entendu en concert. C'est vrai qu'avec ma mère, nous allions souvent au Théâtre des Champs-Élysées, voilà, pour écouter un pianiste ou quelqu'un.
Donc là, vous aviez 10 ans.
10 ans.
Nous sommes en 1964. Vous avez rapporté d'ailleurs ici à Radio France quelques archives que vous conservez précieusement. Ces programmes de concerts que vous avez vus avec Rudolf Serkin, avec Wilhelm Kempf, et puis ce programme du 28 octobre 1964. Où Claudio Arrau joue une sonate de Beethoven, fantaisie et sonate de Mozart, une fantaisie de Schumann, les jeux d'eau à la Villa d'Est de Franz Liszt et la Mephisto Valse. On en rêve bien sûr d'entendre Claudio Arrau en concert. Et vous, eh bien, c'était fait à l'âge de 10 ans.
10 ans, voilà.
Première rencontre, première fois que vous voyez cet homme qui vous a profondément marqué.
Sans doute le son aussi, j'étais...
Vous avez un vrai souvenir de ce concert-là, ou c'est un souvenir un peu reconstitué? Comme 10 ans, c'est un peu jeune.
C'est un peu jeune, oui. Ou c'est reconstitué avec les concerts d'après? Parce que finalement, il est venu chaque année, donc j'ai entendu beaucoup de fois, nombreuses fois. Et c'est mélangé aussi au concert de Serkin.
Oui, vous n'êtes pas dit à ce moment-là, à 10 ans, ça y est, c'est l'homme, voilà. C'est l'homme de ma vie.
Non, pas du tout. Ben, sans doute que, ayant eu, surtout vécu avec la famille maternelle, le rôle du père, c'est très important, le père spirituel ou musical. Donc j'ai certainement recherché chez Arrau comme une figure pianistiquement paternelle. Voilà.
Parce que 1964, c'est donc la première fois que vous l'entendez sur scène.
Oui.
Quand est-ce que vous le revoyez après?
Alors après, j'ai revu justement en 75, j'ai fait, je crois, sa connaissance. Parce que il y avait à Paris un pianiste s'appelait Raphaël De Silva qui venait tous les mois ou tous les deux mois donner quelques cours de piano. Il venait de Munich. Et Raphaël De Silva, c'était l'assistant de Claudio Arrau depuis toujours.
C'était chilien comme lui.
Chilien, voilà, qui est... Raphaël De Silva avait 3 ans de plus qu'Arrau et il était né dans le même secteur du Chili. Donc je crois qu'il était même allé entendre le premier concert qu'Arrau avait donné en tant qu'enfant prodige à l'âge de 5 ans. Et donc après, quand Arrau est parti à Berlin, envoyé par le gouvernement chilien avec une bourse de fils privilégié, héros predilecto, Raphaël De Silva, quelques temps après, a pu aller lui aussi étudier à Berlin. Et donc Raphaël De Silva était un peu une sorte de double, d'assistant. D'ailleurs, ils ont toujours enseigné ensemble, mais à de piano school à New York qu'ils ont créé ensemble. Mais après, il y a eu des périodes où c'était plus ou moins proche. Mais Raphaël s'est identifié totalement à cette école de pensée. Je pense que dans leur jeunesse, ils ont eu un rôle réciproque de mise au point de leur école commune de piano.
Voilà. Comment vous avez rencontré Raphaël De Silva?
Raphaël De Silva qui m'a... Donc j'ai commencé à prendre des cours avec lui.
Il était à Paris?
Mais il venait à Paris tous les mois, il donnait des cours au piano âme.
Et qui vous a suggéré d'aller le voir?
C'est des amis de... la rumeur, disons, a circulé dans le conservatoire qu'il y avait ce Raphaël De Silva qui était apportait une école de piano assez différente en fait.
Première rencontre avec Arrau, ça se passe à quel endroit?
C'était à Strasbourg.
Donc Raphaël De Silva a téléphoné à Arrau pour lui dire « Tiens, j'ai un jeune Français qui pourrait t'intéresser ». C'est comme ça que ça s'est passé?
Oui, voilà, à peu près. Oui. Oui, c'est ça.
Et donc vous suiviez Arrau de concert en concert, là où était Arrau, là se trouvait votre leçon de piano?
Voilà, exactement, à La Chaux-de-Fonds. Où il a
enregistré en Suisse. Avec une magnifique acoustique de cet auditorium.
Voilà.
Donc Raphaël Lesillard vous dit, tiens, à telle date, dans un mois, Raoult est là.
Voilà.
Donc vous preniez vos billets de train, vos billets de le bateau,
Où j'étais simplement en relation après avec Frieda Roth, qui était son agent général à New York et qui m'envoyait ses plannings de concerts. Donc comme ça, j'ai d'ailleurs
vous pouviez cocher.
Je voyais quand il se rapprochait dangereusement de Paris ou de la France. Voilà.
D'accord. Donc vous l'avez rencontré, vous l'avez même interviewé en 1978, et ça, Cyril Lévé, je vous propose de l'écouter en extrait.
C'est très étrange, ces mesures dans le troisième mouvement. Ce sont les seuls moments tragiques vraiment dans le concerto. Il y a aussi dans le scherzo, notre lead, le Der Schmied.
Le forgeron.
Exact, le forgeron, voilà. Tam, pom, 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 Der Schmied. Puis aussi le commencement du troisième mouvement, c'est Immer leiser wird mein Schlummer, dans notre lied. Mon sommeil devient de plus en plus calme.
Je sentais aussi dans le premier mouvement un sens de quelque chose de très dramatique dans certains
dramatique,
passages.
Dramatique, mais surtout vital. Oui. Il y a beaucoup de joie de vivre dans le premier mouvement. Self-search. Vous connaissez ce mot en anglais, self-assertion.
L'affirmation de soi.
Me voilà.
Dans les deux cadences du piano, par exemple.
Dans la première cadence,
oui.
Puis c'est comme une introduction monumentale à ce que va dire l'orchestre.
Oui.
Une technique tout à fait différente de celle qu'on emploie chez Beethoven.
Oui.
Cyril Huvé, c'était en 1978.
Oui.
Et en 2021, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça?
Eh bien, oui, je trouve cette voix toujours très.
On reconnaît la vôtre, hein?
Oui. Mais celle d'Arao est très, très module beaucoup. Hein. C'est une voix qui a beaucoup de couleurs, en fait, comme dans son piano, en fait. Et alors, je suis très, à nouveau, frappé de la qualité de la langue française qu'il emploie. Parce que c'est formidable. Il parle français, comme vous avez entendu à l'instant, mais aussi très bien, évidemment, l'anglais et l'allemand, l'espagnol, le russe, paraît-il. Mais lui, c'est un homme qui lisait vraiment beaucoup, beaucoup. Il disait sans arrêt, il écumait les librairies des villes où il passait.
France Musique, les grands entretiens de Cyril Huvé.
Est-ce que vous pouvez décrire une séance, une leçon avec Arao? Comment ça se passait?
C'est-à-dire, une leçon avec Arao, c'est d'abord, il ne jouait jamais en leçon pour qu'on n'essaye pas de l'imiter immédiatement.
Et vous êtes seul ou il y a d'autres élèves?
Dans chaque ville, en fait, il avait d'anciens élèves qui venaient le voir ou qui habitaient dans le secteur. Donc, à force, on finissait par connaître tous ces gens, en fait, qui était une sorte de chaîne d'un pays à l'autre. L'idée première, c'est de faire réaliser à l'élève l'image sonore de ce qu'il voudrait entendre et de lui faire trouver par lui-même comment il faut faire pour le produire. C'est-à-dire pour éliminer les blocages physiques ou mentaux. L'école Larousse est vraiment une école d'évolution, de travail sur soi-même, en fait. Mais de pas dire il faut faire comme cela ou pour l'obtenir, mais de faire trouver par soi-même, parce que quand on vous donne la solution, c'est pas bon. Quand on donne la solution, si vous n'avez pas trouvé vous-même la solution, vous n'y arriverez pas. Enfin, c'est la définition d'une sorte de maïeutique.
C'est la définition de la psychanalyse aussi, Cyril Huvé, dont vous parlez là.
Oui. Oui, voilà, exactement. Arao est un homme qui a beaucoup fait de psychanalyse.
Vous êtes passé par là aussi?
Non.
Mais vous connaissez un peu le sujet?
Oui, je connais un peu le sujet, mais oui, tout à fait. On croyait beaucoup à l'idée que le professeur était un peu unique. C'est le contraire de ce qu'on fait maintenant, parce que actuellement, vous avez dans un conservatoire, les gens vous sortent leur CV, ils ont toute la terre comme professeur, parce qu'ils ont pris des masterclass avec l'un, l'autre, le troisième, des conseils de 36 personnes. Et bon, on dit que c'est bien aussi, sûrement d'ailleurs, mais
ça peut être de l'éparpillement.
Mais c'est fait d'éparpillement, et aussi c'est une conviction moindre par rapport à ce qui nous semble une sorte de vérité, quoi. Parce que si vous êtes élève de Rao, vous avez des idées esthétiques très précises et vous pensez que elles sont meilleures, disons, enfin vous y croyez plus que celles d'un autre grand pianiste. Sur cette façon d'appréhender le travail sur l'œuvre, chaque leçon, en fait, il fait le travail avec vous, puisqu'il vous fait respirer, il vous fait travailler finalement le rubato organique, en fait, la respiration organique d'un rubato, ou la diction d'une phrase. Je pense que la musique, c'est d'abord un énoncé, une courbe, la production d'un sens, et il faut dire la chose. Enfin, l'interprète est une sorte d'acteur ou de personne qui dit la phrase. Voilà. Et donc, le travail de la part du professeur n'est pas de dire que la phrase doit être dite de telle ou telle façon, mais de faire repartir chaque fois une nouvelle idée, en fait, une nouvelle prononciation, une nouvelle chose. Et alors, pour ça, ce qui est très important, c'est que le corps ne soit pas un obstacle. Donc, Rao et son école insistent beaucoup sur la souplesse et l'absence de blocage physique. Parce qu'un blocage physique provoque un blocage mental. C'est aussi des écoles de piano qui sont plus tellement pratiquées maintenant. En fait,
qu'est-ce qu'on fait pour éviter le blocage physique?
Ce qui empêche le blocage physique, c'est ce que l'oreille et la psyché veulent entendre.
Dominique Merlet et Claudio Rao, le troisième grand maître que vous avez côtoyé, Cyril Huvé, c'est Georges Siffra. C'était à Senlis, dans l'Oise, dans la fameuse église qu'il avait rachetée, la collégiale Saint-Frambourg.
Alors c'était très différent, il faisait travailler une après-midi entière dans l'église Saint-Frambourg vide pour passer avec lui les œuvres. Comme il disait. Je ne me suis pas dit à moi-même que c'était si important parce que je ressentais ça presque comme une discordance par rapport à l'école d'Arao, parce que pour Arao, Chifra peut-être appartenait à des virtuoses, une virtuosité qui considérait
trop démonstrative.
Démonstrative, et que justement le sommet de la virtuosité, surtout Arao toute sa vie a essayé de réhabiliter Liszt aux yeux des grands musiciens pour dire que Liszt n'était pas le battleur que l'on pensait, mais était toujours un compositeur qui avait une force intérieure bien supérieur à cela. Et de fait, Siffra était tout aussi convaincu de cette idée, hein. Il était tout à fait convaincu de ça, de l'importance de Liszt, mais c'était complètement différent comme rapport au clavier. C'est quelqu'un de beaucoup plus animal. Animal, voilà, oui. C'est ça. Quoi qu'Arao aussi, hein, si vous le regardez dans le film.
Une sorte de faux aussi.
Oui, oui. Mais enfin, c'est des gens qui font qu'un avec leur piano.
Et le personnage, Siffra, vous l'avez côtoyé également.
Voilà, il m'aimait beaucoup. En fait, il m'a beaucoup donné. Hein. C'est formidable. Je suis passé, je pense, des journées entières, des après-midi, disons, mais à nombreuses reprises, où finalement, il me consacrait toute l'après-midi pour me faire travailler.
Franz Liszt, notamment, j'imagine.
Liszt, Schumann, Chopin. Enfin, c'était. Et puis alors, on pouvait aller aussi chez lui, dans sa maison de Senlis, voilà, discuter un moment. J'ai aussi travaillé avec lui dans sa maison où il avait la firme Yamaha lui avait refait un piano Yamaha dans son ancien Steinway. C'est très amusant.
Mais quel personnage était-il?
Mais je crois un personnage vraiment très attachant.
Comme Rao.
Oui, ou différent. Différent, mais c'est quelqu'un du terroir, extrêmement authentique et qui a pas de double langage. Enfin, c'est quelqu'un de très franc. Enfin, qui a une sorte de gentillesse fondamentale. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup communiquer avec les gens. D'ailleurs, lorsque j'ai habité en Franche-Comté, par exemple, il était venu aussi une fois parce qu'il avait des amis dans la région. Il a tissé des amitiés avec des tas de gens en France de milieux très différents, en fait. Voilà, Sifra, pour résumer, je pourrais dire que c'est quelqu'un qui est absolument pas snob. C'est un anti-snob. Mais puis, alors, Sifra, c'est aussi quelqu'un qui a une vérité par rapport aux œuvres. On a du mal à imaginer maintenant à quel point il était important en France.
Alors Cyril Huvet, on a parlé de ce que ses professeurs vous ont apporté, Dominique Merlet, Claudio Rao, Georges Tiffra. Vous-même, vous avez été professeur à Dijon et à Paris. Vous pouvez nous parler du professeur Cyril Huvet?
Mon premier poste était au conservatoire de Pantin, où j'ai été quelques années. Et après, quand je suis parti dans le Jura, je suis ensuite allé... J'étais professeur au conservatoire de Chalon-sur-Saône. Et ensuite au conservatoire de Dijon, au CRR de Dijon. J'ai eu une classe pendant un bon moment. Et ensuite, Gérard Frémy m'a proposé d'être son assistant au conservatoire de Paris, au CNSM. Et j'ai eu tout un moment, là, d'une bonne dizaine d'années, avec Gérard Frémy.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier de professeur, Cyril Huvet?
Ça m'a pas seulement plu, mais ça me semble essentiel. Je trouve que, justement, ce qui me plaît, en fait, beaucoup, enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement d'arriver à voir comment on peut faire évoluer les gens, en fait, d'arriver à ce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans ce qu'ils font. Je trouve rien de pire que finalement toujours de dire on doit jouer tel morceau, ou on peut dire il y a dans l'enseignement une certaine façon de savoir préparer des gens pour qu'ils gagnent des concours, qu'ils soient bons, qu'ils aient leur prix à la fin de l'année. Ou ça. Et puis souvent ça s'écroule après. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à faire sortir des gens ce qu'ils ont en eux, quel que soit le niveau finalement. C'est très intéressant avec des gens en deuxième cycle, on peut arriver à... Enfin, s'ils mettent au point des morceaux, où ils soient en harmonie avec eux-mêmes. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose. C'est le fait d'arriver à éveiller des consciences ou des gens à l'art musical.
Thank you. C'est à Franz Liszt que l'on doit cette paraphrase sur Hernani de Giuseppe Verdi, partition enregistrée par Cyril Huvé sur un piano Erard de 1850. Et justement, demain, dans la troisième partie de nos grands entretiens, il sera question de ces pianos anciens.
À réécouter sur francemusique.fr.